Je considère que le président de la République en a eu ras-le-bol en ce qui concerne l'institution d'une force militaire régionale qui a du mal à exécuter la mission pour laquelle cette force a été sollicitée. Je considère que cette force n'a pas rempli correctement ses obligations et tout comme elle a failli totalement à la mission qui lui a été confiée. Donc ça veut dire que c'est un échec, cette force militaire régionale qui n'a pas réussi à neutraliser, les M23 et toutes les autres forces négatives qui opèrent dans la région. Et donc le président a raison d'échanger son fusil d'épaule dès lors qu'il considère que la première stratégie n'a pas réussi.
Qu'est-ce que cela veut dire quand le président de la République de la RDC, Félix Tshisekedi, parle de la fin de mission de l'EAC en juin? Peut-on s'attendre à ce que la RDC ne renouvelle pas cette mission?
C'est toujours possible, parce que maintenant, c'est vrai que le président veut faire confiance à la force est-africaine venue de l'autre côté, du pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, et le fait que le président se tourne aujourd'hui vers la SADC en lieu de place de l'EAC, c'est une décision qui est constitutive d'une nouvelle orientation. Parce que loin de substituer les forces, c'est la juxtaposition qui va se faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à multiplier les forces opérationnelles dans l'Est. On va peut-être prendre maintenant la force de la SADC qui va remplacer celle de l'EAC pour ne pas avoir les doublons.
Mais il faut dire qu'il y avait déjà cet épisode de la démission et du remplacement du chef d'état-major qui est un Kenyan, le lieutenant général ou le général-major Jeff Niaga, il y a une semaine. Hein.
Oui, le malaise était déjà là, parce qu'en fait, le président de la République n'a pas noté d'avancée significative sur le terrain. Mais même là, il y a eu une sorte de complicité entre les forces de la communauté d'Afrique de l'Est et le groupe d'armée, dont les M23 en tête. Et donc, aujourd'hui, on voudrait avoir une force qui soit constituée plus ou moins des pays qui ont le cœur à l'ouvrage pour, cette fois-là, faire l'opération. Vous savez que l'Angola avait promis d'envoyer un contingent de 500 militaires, mais aujourd'hui, il y a l'Afrique du Sud qui fait partie, dont les militaires font partie de la MONUSCO. Alors, il y a certainement des questions qui restent en termes de détails pour savoir si l'Afrique du Sud, qui est déjà la MONUSCO, va vraiment aligner des gens ou donner seulement du matériel. Mais ce qui est important est que on a mis une présence de la communauté d'Afrique australe qui risque de se substituer à la première. Donc, pour ne pas avoir à la fois l'EAC et la SADC sur le même terrain, sur le même théâtre d'opération.
Est-ce que sur le plan légal, sur le plan texte, les Congo peuvent facilement se dégager de l'EAC comme ça?
Je ne pense pas. Il faut lire les textes. C'est vrai que nous ne les avons pas devant nos yeux. Il faut peut-être essayer de voir les textes, le ressasser, et puis, sur cette base, en faire une lecture. Mais sur le plan des principes, le Congo, dans sa souveraineté, a la latitude de recourir à n'importe quelle force, pourvu que celle-ci contribue à la restauration de la paix. Et ce qui est recherché, c'est la paix durable et avec la contribution de ceux qui peuvent. S'il y a eu des forces avant dont l'intervention frise la complicité avec le groupe qui écume et qui pille dans l'Est, c'est tout à fait normal que le président, dans son pouvoir discrétionnaire, puisse se retourner vers d'autres fonds qui puissent réellement aider le Congo. On ne peut pas entrer dans des communautés, dans des groupes, dans des forces régionales, entrer seulement par complaisance, s'il n'y a pas un intérêt particulier. Moi, je pense que le président doit avoir des raisons, et peut-être la raison de l'ignore.